Et bonjour tout le monde, ça va bien? Hey, ça sent bien, ça va bien?
Oui.
Justin, je t'ai pas vu. La semaine prochaine, je vais t'entendre. L'automne s'installe. Ce matin, on s'en venait, c'était super beau. Ça me donnait le goût d'aller marcher dans le bois avec un 12 dans les mains. Mais je suis ici ce matin, On va tourner ensemble dans l'épître de Jacques maintenant. On va tourner dans Jacques, on vient de commencer l'étude de cette lettre-là, extrêmement pratique. Et ce matin, Jacques va nous conduire dans le cœur du combat. Je vous dis souvent que je fais du karaté, hein? Laissez-moi faire une autre référence au karaté, c'était trop simple cette semaine, je pensais à ça, puis je me disais, c'est tellement évident. Ça fait 5 ans environ que mon gars et moi, on fait ça, puis... Naturellement, je suis pas un sportif, OK? Fait que c'est tout un autre champ. Il y a un paquet de réflexes que j'ai pas. Je les ai juste pas. Ils sont tous à développer, tout ça. Fait que évidemment, le karaté, ben, t'apprends des katas. Fait que t'apprends tes petites chorégraphies de katas. Ça va, tout ça. Ça, c'est la technique. Mais après ça, il y a les combats. Là, tu t'en vas dans les combats, puis, je veux dire, la première fois, tu t'avances, puis il y a un point qui s'en vient vers toi. Fait que t'analyses pas longtemps, hein? Tu fermes les yeux, puis tu le reçois. Ça ressemble à ça, tu sais. Puis là, le prof t'arrête, puis il dit, OK, first, tu fermes pas les yeux. T'sais, c'est parce que tu pourras jamais l'éviter si tu fermes les yeux, tu sais. Puis là, après ça, qu'est-ce que tu fais la fois d'après? Bon, mais là, tu gardes les yeux ouverts, mais tu le vois venir. Fait que tu te sauves en courant, tu sais. Il dit, non, tu fais juste une esquive. Non, c'est pas mon réflexe de faire cette affaire-là. Puis ce que tu découvres au fur et à mesure que tu avances, puis que tu apprends à faire ces petits combats-là amicaux, vous m'avez pas vu avec le nez cassé encore, ça va? Mais au fur et à mesure que tu apprends à faire ça, tu apprends qu'il y a ce qui se passe là, dans la bataille, puis ce qui se passe à l'intérieur de toi. Parce qu'il y a un combat qui se passe dans la réalité physique juste là, mais il y a un combat à l'intérieur qui se passe aussi. Et ça, c'est vrai avec toute notre vie. On a des batailles à livrer à tous les jours de nos vies. Certaines sont énormes, il y en a de multiples qui sont toutes petites, mais on a des batailles à livrer. Et ce que Jacques fait ce matin dans le passage, il nous dit, c'est vrai, il y a le combat extérieur, il y a les épreuves de la vie. Il a commencé à nous en parler la semaine dernière. Mais le cœur du combat, c'est pas ce qui se passe à l'extérieur lorsque tu jases avec les gens, lorsqu'il y a des épreuves de la vie, lorsque tu perds ton emploi. C'est pas là qu'est le cœur du combat. Le cœur du combat se passe à l'intérieur de l'être humain. Et avant d'aller sur le champ de bataille, Jacques nous dit, on va aller regarder ensemble. C'est quoi le cœur du combat? On va écouter ensemble la parole de Dieu. Jérémie va nous conduire à partir de Jacques 1, 12. Écoutons ensemble la parole de Dieu.
Alors, le passage de ce matin est tiré du livre de Jacques, au chapitre 1, versets 12 à 27, édition Louis II. Donc, Jacques, au chapitre 1, versets 12 à 17. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde.
Père éternel, on veut venir devant toi, te demander de venir faire une œuvre dans nos cœurs, Seigneur. Les combats sont multiples dans nos vies. Certains sont énormes, vont occuper des années, des mois, de grandes portions de notre vie, mais ils sont aussi quotidiens, Seigneur, quel que soit notre âge, notre réalité. Je te prie, Père, ce matin, de venir nous aider à être attentifs à ce qui se passe en nous, afin de pouvoir entrer dans le combat, dans les combats de la vie, en se confiant en toi, Seigneur. Seigneur, on veut reconnaître en commençant que nous ne pouvons obtenir la victoire sur ces combats, Seigneur, que par ton aide, par ta puissance. Viens nous éclairer, viens nous aider à t'écouter attentivement, Seigneur, afin de grandir ensemble. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. La semaine dernière, avec Jacques, on a vu que les combats de la vie sont très nombreux. Il y a toutes sortes d'épreuves. Jacques appelle ça des épreuves, d'accord? Et ils sont extrêmement nombreux. Je vais vous donner un exemple avec notre journée d'hier avec la famille, d'accord? Hier, on avait un service funéraire dans la famille. J'ai un de mes oncles qui est décédé, tout ça. Puis, juste pour voir à quel point ça va vite, puis il y en a tellement d'épreuves dans une journée, même à l'intérieur d'une seule journée. Alors, évidemment, cette famille-là est en train de passer par le deuil. Alors, c'est toute une épreuve. C'est une des plus grandes épreuves, n'est-ce pas? La mort. Donc, on s'en va là-bas. Déjà, il y a cette épreuve-là qui est présente. Mais en route, lorsqu'on part pour se rendre là-bas, bon, on était un peu stressé dans mon horaire. Ceux qui me connaissaient, j'ai un horaire, tu sais, puis là, un petit peu stressé, tout ça. Donc, j'étais un peu bête au début lorsqu'on a embarqué dans la voiture. Ça m'arrive absolument presque jamais. Mais exceptionnellement, j'avais un besoin un petit peu de vivre l'humanité. Puis j'étais bête dans l'auto. Et donc, il y a des gens dans l'auto autour de moi qui vivaient une épreuve. C'est la vérité. Puis on s'en va sur la route, tout ça. Puis à un moment donné, j'essaie d'exprimer mon idée à quelqu'un. Puis il y a une personne dans l'auto qui m'a répondu bêtement. Toute cette affaire, hop, c'est venu me chercher en dedans. Une autre épreuve, tout petite. Je veux dire que je m'en vais à un service funéraire. Vous comprenez, c'est pas comparable. Mais la réalité, c'est que c'était encore une épreuve à ce moment-là. Puis lorsqu'on était là-bas, j'étais en contact avec ma famille, puis c'est une partie de la famille que je vois beaucoup moins souvent. Savez-vous quoi, à un moment donné, il y avait des vieux complexes que moi j'avais par rapport à ma famille qui revenaient. Le fait que j'étais en contact, vous savez c'est quoi? Être en contact avec la famille éloignée, des fois il y a des vieilles histoires qui reviennent dans ton cœur. Puis on était là pendant le service, puis j'étais conscient de ça. Hop, j'avais une autre épreuve qui était là. Puis mon fils était là, puis à la fin de la journée, je suis allé voir Bastien, puis j'ai dit, Bastien, j'ai vraiment trouvé super bon. Parce que c'est une partie de la famille qui ne connaît pas vraiment, puis honnêtement, aller passer 5 heures quand tu as 14 ans, avec des gens avec qui tu n'as rien à dire, puis il faut juste que tu expliques les liens familiaux. Lui, c'est le mononcle, puis la matante, puis le grand-oncle, puis tu sais, tu ne reverras peut-être jamais de ta vie. C'était une forme d'épreuve pour un adolescent d'être là, puis de dire, on va sourire pendant 5 heures, puis je vais passer mon samedi à faire ça. Mais il a fait de bon cœur, il a bien fait, puis à la fin de la soirée, j'ai dit, vraiment, je t'ai trouvé super, parce que je savais que c'était long pour lui. Puis donc, c'était une épreuve qu'il y avait à ce moment-là. Et puis, pendant que je jasais avec un autre de mes cousins, en fait, avec mon cousin qui a perdu son père, en jasant avec lui, je n'étais même pas au courant, son épouse vient de perdre son père le mois dernier. Là, tu parles d'épreuves, ça, c'est des épreuves. D'accord? Ça, c'est toute une épreuve. Alors, on pourrait continuer comme ça. Là. J'ai pris comme 10 minutes, puis j'ai dit, dans une journée, qu'est-ce qu'on vit comme épreuve? Voyez-vous? On pourrait en sortir encore des dizaines là, dans la petite famille Étier. Puis je suis allé juste avec moi. Je n'ai pas fait un tour de table au souper pour dire, OK, on fait une liste, toute la gang. Des épreuves, on en vit un grand nombre. Une grande diversité de grandes épreuves, de petites épreuves. Au nombre qu'on est ici, ce sont des milliers peut-être dans une journée. Parce que Jacques nous dit, et c'est ça qui change lorsqu'on avance dans le texte ici, il nous dit qu'avec chaque épreuve qui vient dans la vie, il y a possiblement une tentation qui va être présente aussi. Regardez bien ce qui se passe dans notre passage lorsqu'on arrive au verset 12. Il dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, après avoir subi l'épreuve. » Et là, oups, on vient de basculer ici. Jacques nous définissait ça comme des épreuves, mais il nous dit « Attendez un petit peu. Avec chacune des épreuves qui vient dans nos vies, possiblement vient aussi une tentation, parce que je me retrouve devant un choix. » J'ai une épreuve, j'ai un choix à faire. Je vais prendre cette voie-là ou je vais prendre cette voie-là. Et donc là, il peut y avoir quelque chose qui est activé en moi qui fait que c'est pas si évident. Hier, on est dans l'auto, je me fais répondre un peu bêtement, puis là, j'ai une tentation. Et je vous dis, j'ai une tentation, j'ai une grande gueule, moi. Toutes sortes de tentations. Puis là, heureusement, Dieu merci, j'ai décidé de me fermer la trappe. Mais là, je me suis mis à prier, puis là, je dis, OK, Seigneur, c'est quoi là, la bonne attitude, là? Mais je vous dis, si j'avais pas été piqué, je vous aurais donné la réponse comme ça, par cœur, pas de problème. Mais là, j'étais plus objectif. Fait que là, juste trouver la bonne attitude, c'était comme pas évident. Fallait que je cherche puis que je prie pour dire, qu'est-ce que je fais? Puis finalement, la réponse a été ferme là. C'est bon. C'est cool. C'était la bonne chose à faire à ce moment-là. Si t'as pas quelque chose d'intelligent à dire, ferme là. C'est cool avec moi, ça, Seigneur. Fait que chaque épreuve de la vie apporte potentiellement une tentation où on va avoir un choix à faire. Comme je l'ai dit, le livre de Jacques, c'est un livre concret. Et ce que Jacques est en train de faire ici, parce que tout ce qui va suivre après dans Jacques va devenir extrêmement pratique, ce que Jacques est en train de faire ici, il est en train de dire, regardez les amis, la vie chrétienne, ça ne se vit pas dans la théorie, ça ne se vit pas dans les salles de classe, ça ne se passe pas avec un tableau, ça se passe dans la vraie vie avec du vrai monde. Et si vous allez vraiment ressembler à Jésus-Christ puis être de bons témoins de Christ, vraiment refléter la personne de Dieu, il va y avoir des combats à tout moment. À chaque instant, il va y avoir des opportunités de ressembler à Dieu ou non. Et avant de vous engager dans cette bataille-là, vous devez aller situer, aller identifier où se trouve le cœur du combat. Et le cœur du combat se trouve à l'intérieur de l'être humain. Ce matin, on va voir que la nature du combat se trouve en nous. Et une des choses que Jacques fait avec beaucoup de sagesse et qui fait la démonstration que c'est pas Dieu qui est le facteur déterminant dans cette tentation-là. Tout se passe à l'intérieur de nous. Mais on a besoin de Dieu et de sa parole pour être heureux à travers le combat et pour résister à travers l'épreuve. Le passage commence en disant « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation ». Et donc, Jacques est en train de nous préparer à livrer ces combats-là. On va revenir à ça à la toute fin de l'exposé. Heureux l'homme. On va revenir au verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Ce matin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir trois éléments, puis je vous les donne tout de suite, juste pour que vous puissiez le voir dans le texte. J'ai dit, Jacques, des fois, est un petit peu moins évident à suivre dans sa structure, mais c'est là. On va parler ensemble de la nature du combat. Et tout de suite, on va voir qu'en réalité, c'est très intimement lié à la nature humaine. D'accord? Donc, ce matin, on parle de la nature humaine. Ta nature, la mienne. Ensuite de ça, on va parler de la nature de Dieu. Parce que lorsqu'on est dans des épreuves, on pose toutes sortes de questions sur Dieu ou à Dieu, n'est-ce pas? Quand l'épreuve vient, je veux dire, on l'appelle à la barre des accusés, puis on a besoin d'explications, naturellement. Et donc, on va parler de la nature de Dieu. Et enfin, troisièmement, on va voir ensemble la nouvelle nature que Dieu veut nous donner pour passer à travers les épreuves. La nature humaine ou la nature de la tentation, du combat, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous, la nature de Dieu, et puis la nouvelle nature qu'il veut nous donner. Allez avec moi dans le passage. Jacques est un fin psychologue. Il connaît le cœur humain. Au verset 13, il dit « Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente. » Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. » C'est une question complexe, hein, parce que lorsqu'on étudie la Bible, on en vient à croire de plus en plus, à réaliser de plus en plus que Dieu est énorme. Dieu est immense. On a un terme en théologie, si vous n'êtes pas familier avec ça. On parle de la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain, c'est le roi de l'univers, et donc il est souverain, il règne. Et donc Dieu permet des épreuves dans nos vies, et c'est tout à fait biblique même de dire que Dieu ordonne des épreuves dans nos vies. Et de là, il y a juste un pas à faire pour dire que Dieu nous tente, si Dieu permet et Dieu ordonne. N'est-ce pas? Il manque juste un pas. Et nos cœurs le franchissent régulièrement, ce pas-là, lorsque l'épreuve est difficile. Et donc, Jean commence en disant que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Jacques, dans le fond, prend le temps de faire une espèce d'analyse de ce qui se passe en nous. C'est quoi cette dynamique-là qui se passe lorsque je suis devant une épreuve? Une épreuve est présentée devant moi, et puis vous pourriez juste retenir quelques mots, d'accord? Épreuve, tentation, désir, choix, péché, mort. Je les répète pour ceux qui aiment prendre des notes. Épreuve, tentation, désir, choix, péché, mort. Il dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise lorsqu'elle a conçu enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Ce que Jacques est en train de nous dire ici, c'est que tu n'as pas besoin de Dieu pour faire des mauvais choix. Jacques est en train de nous dire, c'est vrai, il y a des situations où tu as des épreuves qui viennent dans ta vie, puis tu as des choix à faire. Si tu fais des mauvais choix, cherche pas à mettre le blâme sur Dieu. Puis en fait, Jacques amène même pas le diable là-dedans. Jacques amène même pas le monde dans ça. Plus tard, il va en parler. Il va parler de l'influence ou des valeurs qu'on trouve dans le monde. Mais Jacques est un chrétien d'expérience qui sait livrer ces combats-là intérieurs. Et il dit non. Cherche pas à mettre le blâme sur Dieu. Cherche pas à mettre le blâme sur le diable. Cherche pas à mettre le blâme sur les circonstances de ta vie. Va faire l'analyse de ce qui se passe dans ton cœur. Et ceci n'est pas pour dire que j'hérite pas de certains péchés, de certaines tendances. Je le dis souvent, pas la blague, je le dis pour être transparent avec vous puis pour me donner un exemple, mais oui, j'ai un tempérament colérique, j'ai un tempérament irritable. Je suis pas quelqu'un qui s'écrase. Viens me bousculer pour le fun, tu vas voir, c'est rare que je vais aller me cacher dans un coin. Bon, s'il y a assez de témoins, ça se peut que je sois vraiment édifiant, puis je dis, oh, c'est correct. J'ai réalisé que lorsqu'il y a beaucoup de témoins, c'est super facile de bien agir. Bon, donc, j'ai hérité ça de quelque part. Je pourrais vous faire une longue histoire sur mon enfance et les combien de fois j'ai été témoin d'actes semblables et bien pires encore et tout ça. Puis c'est vrai, ça fait partie de mon histoire. J'ai à faire face à ça. C'est l'héritage que j'ai reçu. Mais Jacques dit, non, attends un petit peu, là. Blâme pas le diable, blâme pas le monde, blâme pas Dieu. Regarde ce qui se passe à l'intérieur de toi. Commence par aller voir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ce n'est pas Dieu qui vient ici et qui dit « s'il pouvait tomber celui-là, ça serait vraiment le fun. » Tout ça, ça se passe à l'intérieur de nous. Et donc, Jacques nous dit, puis il va avec un terme neutre, d'accord? Regardez avec moi le verset 14. Lorsqu'il dit « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » J'aime pas le fait qu'on le rende par convoitise. Le terme grec qui est là est plus neutre que ça. C'est lorsque chacun est amorcé par son désir. Le terme convoitise, c'est un désir malsain. Vous êtes d'accord avec moi en français? C'est un désir malsain. Le terme est plus neutre que ça. Et donc, je trouve que la neutralité du terme que Jacques se sent nous dit qu'il y a des situations où je traverse une épreuve, il y a une tentation qui va venir parce que, tout à l'heure, j'asais justement avec ma fille, elle a un résumé de lecture à faire, tout ça, puis en train d'étudier le conte de Monte Cristo, et puis là, elle a dit, bon, mais c'est quoi les valeurs qu'on voit ici? Parce qu'il y a vraiment une idée de vengeance. Ben, est-ce que c'est une valeur, la vengeance? Non. C'est une réponse à une valeur qui est là, dans le cœur humain. Le besoin de justice. Le besoin de justice. Et donc, ce que Jacques est en train de faire lorsqu'il me dit que le désir est neutre, c'est qu'il est possible que je sois placé devant une tentation, devant une épreuve qui devient une tentation. J'ai ce sentiment, ce besoin-là de rétablir la justice parce que j'ai souffert injustice. C'est un désir neutre. Qu'est-ce que je vais faire avec? Qu'est-ce que je vais faire avec ce besoin-là de rétablir la justice? Et là, Jacques est en train de me dire, c'est là que se trouve la bataille dans ton cœur. Il y a une épreuve qui survient dans ta vie, et il y a un désir qui monte en toi, et il y a une tentation qui va se présenter à toi. Qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là? Comment est-ce que tu vas réagir à ce moment-là? Si tu décides de laisser un désir malsain être amorcé en toi, à un moment donné, tu vas être attiré par ça. Puis Jacques nous dit, la fin de ça, c'est la mort. Et je crois qu'il englobe tout, puis il englobe le quotidien aussi. Effectivement, suivre cette voie-là conduit à la mort éternelle. Parce qu'ultimement, si c'est ça mon style de vie, jamais je vais me convertir, c'est pas ça qui va se passer, d'accord? Et donc, ultimement, oui, ça conduit à la mort éternelle, mais ça conduit bien souvent aussi à la mort là, à ce moment-là. Parce que j'ai décidé de suivre ce désir-là, laisser la tentation venir, être amorcée en moi, puis j'ai choisi ce côté-là. Là, j'ai des images de Star Wars qui me viennent. Je me suis laissé attirer par le côté sombre de la force. Et j'ai emprunté cette voie-là, d'accord? Et c'est la mort qui va se produire en moi. Puis Jacques me dit ici, tu n'as pas besoin de Dieu, Yannick, pour vivre ça. Tu es capable de te mettre dans le trouble tout seul. Tu n'as même pas besoin du diable. C'est pas pour dire que le diable n'est jamais là-dedans. Tu n'as pas besoin des valeurs du monde. Tout ça se passe à l'intérieur de toi. Et une des marques de la maturité, ou lorsqu'on grandit dans notre maturité, c'est qu'on apprend à départager, à faire la part des choses entre ce qui vient de l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur de moi. Une grande partie du travail qu'on fait comme parents avec nos enfants, c'est quoi? Ça commence lorsqu'ils ont 1 an, 2 ans. Je regarde Annie et Rachel, ils sont tout petits, puis on essaie de les aider, premièrement, à se calmer, là. Arrête d'arracher les murs, là. On va se parler. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On veut les enseigner à observer ce qui est en train de se passer, leur attitude, leur réaction. Au début, on est sur des choses très, très simples. Regarde, c'est parce que tu t'es cogné le pied, puis après ça, tu as cogné ta sœur. Tu sais? C'est quoi le lien logique entre les deux, là? Explique-moi ça, s'il te plaît. 350 mots? Je veux ça sur mon bureau pour ce soir, 5 heures. Mais là, au fur et à mesure qu'on avance tranquillement, puis ils grandissent, qu'est-ce qu'on fait? On les aide à réfléchir, à analyser. Puis là, tu arrives devant tes ados, puis là, tu dis, pourquoi tu as fait ça?
Je ne sais pas.
C'est parce que là, maintenant, tu pèses 125 livres, tu sais. Fait que c'est moins drôle, là. Ça serait le fun que tu le saches pourquoi tu as fait ça. C'est ça qu'on fait, c'est vrai? C'est ce que Jacques fait ici avec nous. Jacques, il dit, devenir un chrétien mature, c'est apprendre à départager les facteurs qui sont extérieurs à moi, ce qui est en train de se passer autour de moi, qui peut m'influencer, qui va présenter une épreuve, qui va devenir une tentation. Parce que je jase avec un ami, puis il dit, tableau, remets-y pareil. Oups, ça, c'est à l'extérieur de moi. Mais Jacques dit, attends un petit peu, t'as même pas besoin de lui pour te rendre là. Sois attentif à ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et donc, Jacques est en train de nous parler de notre nature pécheresse. En langage chrétien, c'est ça. Jacques est en train de nous exposer à notre nature pécheresse. Et puis ensuite de ça, Jacques va aller parler de la nature de Dieu. On a toutes sortes de visions de Dieu. Lorsqu'on arrive au verset 13, Jacques dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. » Dieu ne peut être tenté, écoutez ça, Dieu ne peut être tenté par la tentation de nous tenter. Ça va-tu? Naturellement, on a tendance à avoir une vision assez machiavélique de Dieu. Hein? Il y a beaucoup de pouvoir, puis si moi j'avais beaucoup de pouvoir, j'aurais du fun. J'aurais du fun avec vous autres, mes petites fourmis. Je vous placerais dans toutes sortes de situations vraiment difficiles. Je serais crampé en deux, comme ça, en train de vous planter. Ça, c'est notre vision naturelle de Dieu qui vient. Jean qui dit, Dieu n'est pas comme ça. Le Dieu que vous imaginez, c'est de la projection que vous faites, les copains. Vous imaginez Dieu tel qu'il serait si vous étiez Dieu. Mais il vient juste d'établir le fait que nous, on a une nature pécheresse. Et donc, il dit, non. Dieu ne peut être tenté par le mal. Pour Dieu de venir nous tenter, ce serait déjà faire le mal. Je vais vous donner une illustration, d'accord? Si votre culture biblique est suffisante, retournez avec moi dans le temps, Jardin d'Éden. On a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de la vie qui est là. Des fois, on jase avec des gens, on parle de la foi, tout ça avec eux, puis les gens vont nous dire, mais tu vois bien? Tu vois bien, dans le fond, ils voulaient que tu pêches. Ils voulaient que l'être humain pêche. Ils nous ont donné la possibilité de pêcher à ce moment-là. C'est une question plus complexe que ça. Dieu ne voulait pas des automates, ça c'est très clair. Et donc, il voulait quelqu'un qui fasse un choix. Mais regardez la différence entre Dieu et entre le diable dans cette situation-là. Donc oui, il y a un choix qui est là. Jacques le dit, chacun d'entre nous, on est exposé à une grande diversité d'épreuves. Un grand nombre d'épreuves. Ces épreuves-là se transforment bien souvent en tentations. Et donc Dieu, qui est souverain, me place devant des options. J'ai des choix à faire. Mais qu'est-ce que Dieu fait avec Adam et Ève dans le jardin? Il leur dit, voici. Je place devant vous l'arbre de la vie, puis je place devant vous l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je vous donne tout pour être heureux, absolument tout pour être heureux. Vous n'aurez besoin de rien pour être heureux, d'autre que de marcher dans mes voies. Choisissez le bien, vous choisissez la vie. Maintenant, Dieu donne des informations super justes et vraies. Il dit, décidez d'aller vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et vous allez mourir. Vous allez mourir. Et c'est absolument vrai. On est mort spirituellement. C'est ce que Jacques vient de nous dire en nous parlant de notre nature pécheresse. D'accord? Et on meurt physiquement et pour l'éternité. Tout un autre sujet. Mais Dieu est là, puis Dieu n'est pas là en train de dire, regarde, je vais mettre des options devant toi, puis si seulement il peut se péter la baboune. Dieu est là, puis il nous dit, regarde, je mets des options parce que je veux te voir grandir, je veux te voir choisir le bien. Choisis le bien! Parce que dans sa nature, Dieu ne fait pas ça en espérant qu'on tombe. Le diable vient, par exemple. Le diable vient, qu'est-ce qu'il fait? Deux mêmes options. Le diable vient et il dit, si je peux jouer un petit peu avec la vérité, si je peux juste déformer un peu ce que Dieu a dit, les deux options sont là après tout, si je peux juste l'entraîner. Et qu'est-ce qu'il souhaite? Tout ce qu'il désire, c'est que tu te pètes la baboune. Et que tu ailles vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu n'est pas comme le diable. Lorsque j'arrive devant des épreuves et que l'épreuve est là, puis je commence à méditer sur la souveraineté de Dieu, sur mon Dieu qui est tout puissant et qui donc, parce qu'il est tout puissant, a permis cette épreuve-là dans ma vie, c'est vrai, il a même ordonné cette épreuve-là dans ma vie. Lorsque je commence à voir Dieu comme le diable, comme une espèce de coach qui s'en vient à côté de moi puis qui souhaite juste que je me pète la baboune, puis que je fasse le mauvais choix. La vérité, là, c'est que je suis en train de faire de la projection. Vous savez, c'est quoi de la projection en psycho? Je fais de la projection. J'imagine Dieu si j'étais Dieu. J'imagine comment serait Dieu si j'étais comme lui. Mais Dieu, dans sa nature, ne peut pas faire ça. Parce que si Dieu est en train de faire cela, si lorsqu'il place des épreuves et des choix devant nous, si son but, c'était de nous voir chuter, il se renierait lui-même. Dieu est fondamentalement bon. Et regardez bien ce que Jacques dit ensuite. Verset 16-17. « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente, tout ce qui est bon, tout ce qui est bon dans l'univers, tout ce qui est bon dans le monde, et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu est bon, Dieu était bon, Dieu sera toujours bon. Toutes bonnes choses qui nous sont données ne viennent jamais du diable, elles viennent toujours de Dieu. Toutes choses mauvaises ne peuvent venir de Dieu, parce que Dieu serait en train de se renier lui-même. Il changerait. Dieu était, est et sera toujours le même. Hors du temps, Dieu est éternellement bon. Ce n'est pas dans sa nature de venir nous tendre des pièges. C'est dans sa nature, par contre, et c'est dans son plan, dans ses desseins, de placer devant nous des tests pour nous faire grandir. comme le Fils de Dieu lui-même, Jésus-Christ, en a traversé. Lui-même, des tests. Parce que dans son humanité, il devait apprendre l'obéissance, la soumission à son Père. Et donc, lorsque vous êtes dans l'épreuve, et certains d'entre vous, vous traversez des épreuves, il y a cette espèce de lutte intérieure qui a tendance à commencer entre Dieu et vous. Vous questionnez Dieu, vous remettez en question la bonté de Dieu. Puis là, si vous êtes des bons petits baptistes, vous avez pris vos cours de théologie, puis vous savez que non, ça se peut pas, ça se peut pas. Mais le cœur lui dit d'autres choses que la tête dit. Puis Jacques me dit, sois attentif à tout ça, mon ami, parce que il faut que tu aies fait du ménage dans tout ça. Dieu ne change pas. Si Dieu change, il n'est pas Dieu, il n'est pas éternel, il n'est pas constant. Et Dieu ne peut jamais être tenté par la tentation de nous tenter. C'est une vision machiavélique de Dieu, c'est une vision diabolique de Dieu, c'est une vision pécheresse de Dieu que de voir Dieu ainsi. Ce n'est pas dans sa nature. Dieu ne peut pas faire d'autre chose que le bien. Il ne peut pas. Il se renierait lui-même. En un instant, il ne serait plus Dieu. Il aurait été beau comme le diable était beau avant sa chute. Il aurait été beau comme l'homme était beau avant sa chute. Mais il ne serait plus Dieu. Dieu ne peut pas faire le mal. Jamais. Et donc, Jacques est en train de me dire, lorsque tu es dans l'épreuve, prends conscience que Dieu est en train de faire quelque chose pour te faire grandir. Il est en train de te placer là. Et lorsque tu sens le combat qui vient en toi, puis que cette épreuve est en train de se transformer en tentation, quelle qu'elle soit, relation avec les frères et sœurs à la maison, relation à l'école, au travail, situation de santé, des problèmes avec l'emploi, tu veux faire le bien, tu parles, tu te fais toujours rabrouer, toutes sortes, une grande diversité d'épreuves qui deviennent toutes autant de tentations possibles. À ce moment-là, ne tombe pas dans le panneau de dire « Ah, c'est Dieu qui veut me tenter. » Dieu est en train de te tester. Mais Dieu est là, 100% disponible, puis il dit « Viens t'en, fais le bon choix. Fais le bon choix, je veux te voir grandir. Pour chacune de vos épreuves. Je pourrais aller prendre un café aujourd'hui avec chacun d'entre vous si j'étais Dieu, hein, omniprésent. C'est pas le cas. Puis on aurait tous des situations à partager ensemble, auxquelles vous devriez être en train de penser maintenant. Vous êtes devant des choix parce que vous traversez des épreuves. Ces épreuves-là se transforment régulièrement en tentations. Et peut-être que vous êtes dans ce combat-là où vous doutez de la bonté de Dieu. Peut-être que tu n'es pas chrétien. Tu cherches, mais tu dis, ce Dieu-là. Regarde le monde, regarde la terre, regarde le mal, regarde la misère. Est-ce qu'un Dieu si bon vraiment existe? J'ai plein de doutes par rapport à ça. Dieu est vraiment, vraiment bon. Et le combat se passe premièrement en nous. Et donc, ce que Jacques nous dit ensuite, c'est qu'il va falloir qu'il y ait une intervention divine. Il va falloir que Dieu vienne nous transformer intérieurement, profondément. Et dans un langage qui est particulier à Jacques, tout d'un coup, Jacques va nous parler de la nouvelle naissance. Regardez avec moi le verset 18. Ce n'est pas évident la première fois que tu le lis, si vous avez la même version que moi. Il dit ceci, « Il nous a engendrés, il nous a créés, il nous a fait naître. » La parole vivante va dire « Il nous a fait naître de nouveau. » Lisant un petit peu entre les lignes. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte prémices de ses créatures. Et donc, ce que Jacques est en train de dire, c'est lorsque tu es dans le combat puis tu es tenté, c'est ta nature à toi qui est là. La nature de Dieu, c'est qu'il est fondamentalement bon. Et ce que nous avions besoin, pour pouvoir être comme Dieu, réagir de la bonne manière à travers les épreuves, faire le bien, on avait besoin qu'une nouvelle nature nous soit donnée. C'est ça qu'il dit au verset 18. Il nous a engendrés, il nous a créés selon sa volonté. Jacques revient encore une fois. La volonté de Dieu, c'est de te donner une nouvelle nature qui va te permettre dans les épreuves de faire, d'agir comme Dieu veut que tu agisses. D'entendre justement l'appel de Dieu devant ce test, devant cette épreuve, pour faire le bien. Mais Jacques est en train de dire, pour ça, il faut que Dieu te donne une nouvelle nature. Il faut que tu sois engendré. Il faut que tu naisses de nouveau par la parole de vérité. Je vais vous citer deux autres passages rapidement pour éclairer un petit peu cette idée-là, parce qu'on voudrait voir les termes « nouvelle naissance », tout ça ici pour bien suivre. Par exemple, dans 1 Pierre 1:23, qu'est-ce que c'est cette parole de vérité? Pierre va dire, « Puisque vous avez été régénérés, vous avez reçu une nouvelle nature, un cœur nouveau, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » On a été régénérés par la parole vivante de Dieu. Moi, je pensais que c'était par le sacrifice de Jésus qu'on était régénérés. C'est ça les chrétiens? Regardez ce qu'il dit un tout petit peu plus loin au verset 25. « Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile, par la bonne nouvelle. » Et c'est vrai. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Jésus-Christ est venu mourir sur une croix afin qu'on puisse obtenir, hériter d'une nouvelle nature. C'est ça, hein? Il est venu mourir sur cette croix, s'offrant en sacrifice pour mes péchés, afin que Dieu puisse me donner une nouvelle nature, moi qui avais une nature pécheresse, que je puisse hériter de cette nouvelle nature-là. Et ceci m'a été annoncé, ça a été une parole de vérité qui m'a été annoncée. On ne devient pas chrétien en regardant des chrétiens. Comment est-ce qu'on devient chrétien? En recevant un message, une parole de vérité qui est l'Évangile, une bonne nouvelle, qu'une nouvelle nature peut m'être donnée. Je peux être engendré de nouveau. Je peux avoir une nouvelle nature en moi. Mon cœur peut être régénéré si je place ma foi dans cette parole-là. Et cette parole, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle que Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés. Et donc, ce que Jacques me dit, c'est lorsque je suis dans le combat, je vois la tentation qui vient. C'est pas Dieu qui me tente, c'est ma nature pécheresse qui est là. Maintenant, si tu es chrétien, Jacques te dit, tu es né de nouveau, tu as été engendré, tu as reçu cette parole-là. Puis là, il va développer ça ensuite. On va voir ça davantage la semaine prochaine ensemble. La première question que tu dois te poser, est-ce que tu as reçu cette parole? Est-ce que tu as reçu cette parole de vérité qui est l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Je le dis souvent lorsque j'enseigne. Je dis souvent, si tu fais juste lire la Bible et que tu ne saisis pas l'Évangile, que tu ne places pas ta foi en Jésus-Christ, ce livre-là va devenir tellement lourd. Ça va être insupportable. Parce que tu vas lire des passages où Jésus va dire, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » « Oh, mais Seigneur, tu ne vois pas toutes les épreuves que tu places devant moi. » C'est comme ça que tu vas réfléchir. Tu ne vois pas tout le mal que tu permets sur la terre. Comment tu veux qu'on soit parfait après les circonstances où tu me places? Seigneur, comment tu veux que je fasse les bons choix? Or, Dieu qui est bon et qui permet ces épreuves dans nos vies, sait très bien qu'avec ma propre nature, je ne suis pas capable d'embrasser le bon choix. Il vient de le dire, Jean vient de nous le dire. Dans ta nature, tu es amorcé, l'épreuve devient une tentation, puis tu as le goût d'aller là. Et donc, la première question que tu dois te poser ce matin, est-ce que tu as reçu cette parole de vérité, qui est l'Évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ? Est-ce que cette parole, ce livre-là, est devenu vie dans ta vie parce que tu as saisi l'Évangile de Jésus-Christ? Tu t'es reconnu incapable par nature de faire les bons choix par toi-même. Et tu as reconnu que Dieu, par nature, est bon. Dieu n'est pas là pour te tenter, te faire chuter. Il est là pour te voir réussir à faire le bien. C'est ça qu'il veut avec tous les tests qu'il place devant toi. Mais ça se peut, oui, que jusqu'à présent dans ta vie, tous les tests qu'il place devant toi servent à démontrer, à exposer ta nature. Te montrer, dans le fond, en termes bibliques, que tu es pécheur. Puis par toi-même, gravir cette échelle-là, puis te rendre à la perfection du Père, tu n'y arriveras jamais. Par toi-même, tu n'y arriveras jamais. Lis pas ce livre-là pour l'observer en entier par tes propres forces. C'est impossible de faire ça. La grande majorité des gens autour de toi ce matin sont des chrétiens et à tous les jours vont dans la prière pour confesser à Dieu, « Seigneur, j'ai manqué la cible, j'ai passé à côté du but, je n'ai pas réussi encore une fois, Seigneur, à atteindre le but. Toi, tu es parfait, toi, tu es excellent, toi, tu ne changes pas, moi, je suis pécheur, j'ai manqué encore, Seigneur, dans ce domaine-là. Je l'ai ouvert, ma sirop de trappe, puis j'ai répliqué. Puis c'était pas beau. J'ai encore été confronté à ma nature pécheresse. Mais voilà, la majorité d'entre nous, on a reçu cette parole de vérité, qui est l'Évangile de Jésus-Christ, dans nos cœurs et dans nos vies. Et donc, nous savons que si nous sommes chrétiens et si nous grandissons dans la vie chrétienne, c'est par pure grâce. C'est parce que Dieu nous a fait grâce de nous pardonner tous nos péchés et il nous a donné une nouvelle nature. On va passer un temps de louange ensemble. J'aimerais ça vous demander au cours des prochaines semaines de prendre le temps de lire le livre de Jacques. C'est une épître qui est très, très courte. Si vous lisez assez vite, lisez-la une fois par semaine. On veut devenir une église qui va ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Amen. On veut ressembler à Christ. Et on veut ressembler à Christ non seulement pour la gloire de Dieu, mais parce que Dieu va être glorifié plus la communauté du Grand Longueuil va apprendre à nous connaître aussi. Et donc, on veut être une communauté qui va être là pour la ville. On veut être une lumière dans cette ville. Et le livre de Jacques va nous instruire, semaine après semaine, au cours des prochaines semaines, à grandir non seulement en théorie, avec de la grande théologie qui a toutes les réponses à toutes les grandes questions de la vie, mais à vivre cette réalité-là dans tous les combats de la vie. Parce que les Écritures nous disent qu'un grand nombre de témoins sont là autour de nous, nous regardent vivre, et on doit aller, nous, être des témoins de cet Évangile. Il y a des gens, frères et sœurs, qui vous regardent livrer ces combats-là, faire face à ces épreuves-là à tous les jours, à tous les instants, toute la semaine. Vous n'êtes pas toujours en train de passer un test devant eux. Mais chacune des fois où je décide de livrer le combat avec Dieu, en suivant Dieu, en étant à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de moi pour me tourner davantage vers Dieu, pour me tourner vers cette parole de vérité, et que j'ai une victoire, je suis en train de briller. Je ressemble à Jésus-Christ. Et les gens autour de nous, chrétiens ou non, sont confondus de voir ça. Personnellement, lorsque je vois un frère, une sœur qui sort victorieux d'une épreuve, je suis aussi édifié que si j'étais non-chrétien, puis je me posais des questions, je disais, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est ça qu'on veut être comme Église, les uns pour les autres, pour nos familles et pour cette ville. Alors, commencez à lire le livre de Jacques. Cette semaine, soyez attentifs où se situe le cœur du combat. On va prier. Père des Lumières, c'est comme ça que Jacques t'appelle notre Dieu. Père des Lumières, parce qu'il n'y a pas en toi d'ombre. Les tests que tu places devant nous dans la vie, aussi douloureux, souffrants soient-ils, ne sont pas là pour nous entraîner à chuter. Mais Seigneur, lorsqu'on est au cœur de la tempête, au cœur de l'épreuve, on est tenté comme les disciples de dire, mais que fais-tu, Seigneur? Tu dors. Tu dors pendant qu'on risque de mourir, Seigneur. Où est-ce que tu es? C'est notre nature pécheresse, Seigneur. On questionne ta bonté, ta sagesse, ta douceur, ta charité. Parce que nous pensons bêtement comme notre vieil homme, Seigneur. Comme si on n'avait pas connu que tu es bon, comme si cette parole de vérité, cette parole de l'Évangile ne nous avait jamais été présentée, comme si je ne savais pas que tu m'aimes et que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés. Seigneur, je veux te prier pour chacun d'entre nous, ceux qui traversent des épreuves quotidiennement et qui luttent avec la colère, avec l'amertume, avec toutes sortes de réponses destructrices qui conduisent à la mort parce qu'ils manquent de patience à travers l'épreuve, parce qu'ils parlent trop et n'écoutent pas assez ta parole qui veut grandir en eux, Seigneur. Je prie pour nous, Seigneur. Je prie pour nous, mais non seulement pour nous, pour ceux qui nous regardent, Seigneur, ceux qui examinent nos vies, qui sont des témoins silencieux de ces témoignages vivants, de cette lumière qui parfois est cachée et parfois brille. Seigneur, pour eux, nous voulons être comme toi, Jésus. Je prie, Seigneur, enfin pour ceux qui nous côtoient, qui viennent ici semaine après semaine, nos enfants, nos amis, qui sont attirés par le christianisme, qui trouvent tes valeurs tellement belles, qui trouvent que tu es génial, mais qui peut-être n'ont pas saisi l'invitation que tu leur lances à ouvrir la porte de leur cœur pour recevoir cet évangile, cette bonne nouvelle que tout va mal dans leur vie, tant que tu n'entres pas, que tu ne les pardonnes pas, que tu ne les purifies pas et que tu ne leur donnes pas un cœur nouveau. Tous ceux qui résistent encore parce qu'ils veulent conduire leur bateau eux-mêmes, Seigneur, au lieu de t'inviter à être Seigneur et Maître de leur vie. Fais leur grâce, Seigneur. Amène-les au bout d'eux-mêmes comme tu l'as fait pour un grand nombre d'entre nous. Parce que tu les aimes encore une fois, pas parce que tu es malin, mais parce que tu veux leur bien, Seigneur. Seigneur Jésus, nous t'aimons, nous t'adorons. Façonne ton caractère, ta beauté en nous par ton esprit et par les épreuves que tu places devant nous, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.